Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième balado de Strasbourg à Brest. Et donc je vous ai laissé, j'arrivais au sommet du Mont Saint-Odile à 750 mètres et j'ai passé la nuit là et aujourd'hui le terme de cette étape va être Neuvillers-la-Roche. Mais avant de partir, je voulais en savoir plus sur ce lieu et je suis donc avec le recteur. Alors je veux dire, monsieur le recteur.
Monsieur le recteur si vous voulez, oui, ou père Christophe Schwalbach. Je suis aussi prêtre.
D'accord. Et alors, monsieur le recteur, parlez-moi de ce lieu. Alors,
c'est un lieu très particulier parce qu'on a retrouvé des traces d'occupation du lieu qui datent du 4e siècle avant Jésus-Christ. Oui, on a trouvé des tessons de céramique du 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est un lieu qui était déjà occupé par les Romains. On ne sait pas trop pourquoi. Certains historiens supposent que c'était un lieu de sépulture pour les gens importants. Mais voilà, ça reste. C'est un piton rocheux vraiment bien isolé. On a un mur d'enceinte que vous avez peut-être vu en montant, en partie en tout cas, qui s'appelle le mur des païens.
Oui, j'ai vu, ça m'a étonné d'ailleurs, je me suis dit, oh là là, le mur des païens, oui. Il y a le mur des croyants et le mur des païens.
Non, en fait, il a été baptisé comme ça au 10e ou 11e siècle, parce qu'à l'époque, on pensait qu'il datait d'avant l'ère chrétienne. On n'en est plus aussi sûr aujourd'hui. Les historiens sont à peu près d'accord pour dire qu'il date du 1er siècle avant au 1er siècle après. Mais il est quand même assez exceptionnel parce qu'une grande partie est encore debout et ça tient avec rien. Enfin, il n'y a pas de mortier, il n'y a rien. C'est juste des pierres empilées les unes sur les autres. Et il fait 10 km de circonférence autour du massif. Là, c'est assez impressionnant. La balade est très belle aussi à faire.
Et alors, ici, c'est un peu comme une forteresse.
Oui, c'était du temps où Odile est né. C'était le château fort de son père qui était duc d'Alsace. On pourrait dire un peu gouverneur militaire de la région. Très grande famille aristocratique dont on fait descendre et Charlemagne et les Habsbourg. Donc on est vraiment dans le haut du panier de l'Empire.
C'est peut-être le haut du panier, mais il s'est quand même très mal comporté avec sa fille.
Exactement, il s'est très mal comporté avec sa fille parce que lui, il voulait un garçon à l'époque. Et il a eu une fille. Alors les filles, c'était bien aussi à l'époque, ça se servait à faire des alliances matrimoniales. Malheureusement, Odile est née aveugle. Ouais. Donc pour lui, aucun intérêt. Il a demandé à son épouse, alors là on est à la fin du 7e siècle, on est un peu dans les légendes et les histoires, de s'en débarrasser, de la tuer, vous ne voulez plus la voir. Sa maman l'a confiée dans un monastère dont elle avait une tante qui était mère abbesse à Balma. Les historiens supposent aujourd'hui que c'est Baume-les-Dames. Et elle a grandi là-bas jusqu'à l'adolescence. À l'adolescence, elle a reçu le baptême. Et au moment du baptême, elle a été guérie de sa cécité. Miracle du baptême, double réconciliation du baptême, voilà.
Ah oui, donc c'est pas forcément grâce à la source miraculeuse dont on parle.
Pas du tout. Non, pas du tout. La source miraculeuse vient bien plus tard. D'accord. À ce moment-là, Odile se dit, je vais rentrer, mon père va m'accueillir.
Ah oui.
Bah encore une fois, elle se trompait. Son père ne voulait toujours rien savoir. Surtout qu'Odile
a eu un frère
qui s'est interposé pour protéger sa sœur dans d'un mouvement de colère du papa. Et le papa a tué le frère d'Odile.
Oui, c'est quand même...
Donc oui, c'est un homme de caractère. Un cas grave, oui. Mais ouais, c'était les brutalités du milieu du Moyen-Âge, je suppose aussi un peu. Mais Odile devait aussi avoir un sacré caractère, parce qu'elle est revenue avec une idée en tête et une seule, c'est fonder une communauté religieuse au château de Hohenburg, où son papa exerçait son pouvoir temporel. Donc, évidemment, son papa n'a rien voulu savoir, il l'a... Alors là aussi, il l'a pourchassée en forêt, il a voulu la marier de force, bref. Mais la fidélité d'Odile, sa confiance, son humilité, sa foi, sa charité, sa miséricorde ont fini par le convertir et il lui a donné les clés du château pour qu'elle puisse y fonder une communauté religieuse. Et elle a fondé les Sœurs de Saint-Odile et qui ont été ici en gros de 680 à 1546. C'est quand même assez long. Une congrégation religieuse qui a duré plus de 9 siècles, c'est quand même assez impressionnant. Le lieu où nous sommes, c'était le lieu où son papa avait son château fort. Il lui a donné son château fort pour qu'elle puisse y fonder la vie religieuse. Et Odile voulait vivre la vie religieuse, donc la vie de prière, la vie de communauté, la vie un peu intellectuelle aussi, enfin l'étude de la parole de Dieu. Et elle, qui a été infirme une partie de sa vie, elle voulait accueillir les malades et les infirmes. mais elle s'est vite rendue compte qu'ici, c'était un peu compliqué, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de route. Donc, elle n'en est pas restée au concept, Odile. Elle a fondé un deuxième monastère au pied de la colline.
Ah, oui.
Je ne sais pas si vous y êtes passé, là, à Niedermünster.
Non, j'ai vu les pancartes.
Pas sur votre route. Ouais. Voilà. Et elle a fondé un deuxième monastère, donc au pied de la colline, où il nous reste encore des ruines, de belles ruines de l'église abbatiale, une chapelle du XIIe, autour de laquelle était sûrement un hospice pour accueillir les malades et les infirmes. Et Odile a sûrement vécu assez longtemps en bas aussi, pour qu'elle puisse y fonder une communauté religieuse. Et elle a fondé les Sœurs de Sainte-Odile, et qui ont été ici, en gros, de 680 à 1546. C'est quand même assez long, une congrégation religieuse qui a duré plus de 9 siècles. C'est quand même assez impressionnant.
Ici, il y a des religieuses, il y a des moines qui vivent ici.
Il reste 3 religieuses aujourd'hui. Il y en avait, il y a 60 ans, il y en avait une trentaine.
Ah oui, donc c'est un peu en perte de vitesse.
C'est-à-dire que les religieuses, avant, faisaient tout. Elles s'occupaient de la pension, de l'accueil, de la cuisine. Petit à petit, ces choses-là se sont salariées. Les sœurs s'occupent principalement de tout ce qui est liturgie autour de la chapelle et aussi d'avoir de bonnes relations avec le groupe qui est là chaque semaine pour assurer la prière perpétuelle.
Parce que alors, c'est la spécificité de ce lieu, c'est qu'il y a un mouvement d'adoration depuis 1931.
Tout à fait.
Sans interruption.
Sans interruption, sauf...
Pendant le Covid.
Sauf pendant le Covid, où la prière n'était plus possible en présentiel ici, parce qu'on a dû fermer, mais où la prière s'est organisée, les groupes se sont organisés. Ceux qui devaient venir faisaient un planning toutes les semaines, et les gens priaient chez eux, à la maison, en communion spirituelle avec le Mont Saint-Odile.
Qu'est-ce que ça représente, ce mouvement perpétuel d'adoration ?
Je ne sais plus quel auteur spirituel disait que si les moines arrêtaient de prier, le monde s'effondrerait. Alors, on pense que voilà, la prière, c'est important. Et ça a été fondé en 1931 pour prier pour le diocèse et pour les paroisses du diocèse. Et pour la paix et la réconciliation. On était entre les deux guerres. On ne savait pas qu'on était entre les deux guerres à l'époque, mais on sortait de la première, en tout cas. Alors, ça n'a pas marché tout de suite. Mais ce mouvement se perpétue, et c'est très beau de voir ces hommes, ces femmes qui viennent donner 5 jours, 6 jours de leur temps, chaque année, pour assurer cette prière ininterrompue pour le monde, en fait. Voilà, on est unis au monde entier, là, quand on prie sur une colline comme ça.
Et alors, en plus, vous dites pour donner, mais ils payent pour venir prier pendant une semaine.
Alors, ils payent leur pension, oui, mais à un prix tout à fait raisonnable par rapport à ce qu'ils paieraient s'ils étaient à l'hôtel, par exemple. Oui.
Vous, en tant que responsable de ce lieu...
Je suis là depuis 4 ans et demi pour accueillir, en gros, 500 000 pèlerins et touristes par an, puisqu'on a un peu plus de 500 000 passages par an dans le sanctuaire. Oui.
Quel est votre rêve ?
Mon rêve, c'est que de plus en plus de touristes deviennent des pèlerins.
Ah oui.
Et c'est le cas parce que, en discutant parfois avec les gens, beaucoup de gens viennent parce qu'il y a une belle vue, parce que c'est un beau lieu, et ils repartent touchés par quelque chose. Touchés par l'histoire d'Odile, touchés par sa prière pour son papa, qu'elle a voulu qu'il soit pardonné, elle a beaucoup prié pour lui même après sa mort, touchés par sa charité, touchés par sa... Voilà, les gens ressortent avec... Ce qui m'a beaucoup étonné ici quand je suis arrivé, c'est que c'est un lieu très éclectique au niveau de tous les gens qui passent, et aussi au niveau religieux, c'est un lieu interreligieux. Oui. Des protestants qui viennent de Mont-Saint-Odile, il y a des musulmans qui viennent de Mont-Saint-Odile, il y a des bouddhistes qui viennent de Mont-Saint-Odile. Il y a vraiment, et j'ai parfois l'occasion de parler avec les gens, même des musulmans m'ont dit, c'est pas seulement pour la beauté du lieu, c'est aussi un lieu de paix. C'est un lieu de paix, un lieu de grâce. C'est un lieu où les gens viennent chercher des ondes. C'est un lieu un peu tellurique.
Ah oui.
Oui, on a ça aussi.
Vous les sentez, vous ?
Moi, non. Moi, non, mais je ne dois pas être... Je pense que tout le monde ne les sent pas, je ne sais pas.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être prêtre ?
Oh là là, c'est une grande question, ça.
Bah oui.
L'émission est longue ?
Vous avez vu, j'ai tout le temps. Bon, faut quand même que j'aille marcher, mais...
Je pense qu'en fait, il y a deux choses. En fait, c'était peut-être ancré en moi depuis longtemps. Parce qu'en fait, j'ai une vocation assez tardive. Je suis entre séminaire qu'à 30 ans.
Ah oui.
C'était sûrement ancré en moi depuis longtemps parce que moi, j'ai grandi à côté de chez Dominicains à Strasbourg. J'étais dans le scoutisme. Je côtoyais des prêtres, on va dire. Ça faisait partie.
Ça veut dire que vous avez fait des études complètement différentes.
Ah oui, je suis juriste de formation et j'ai travaillé dans la grande distribution.
Ah oui.
Oui. Et c'est revenu après, en fait. Ça veut dire comme un boomerang. À un moment, alors j'étais dans la grande distribution, je gagnais assez bien ma vie. Mais voilà, ça ne me satisfaisait pas entièrement. Et je me suis dit que je pouvais faire peut-être autre chose de ma vie. Et alors là, alors, mais après, chaque histoire est différente. Moi, j'ai fait un grave accident de voiture qui m'a laissé sur le carreau pendant un an et demi. Et ça laisse le temps de réfléchir sur ce qu'on veut faire. Voilà, autour de 26, 27 ans, voilà, qu'est-ce que je continue à faire de ma vie. Et c'est là que j'ai décidé de, à la fin de mon congé de maladie, j'ai démissionné de la grande distribution et je suis entré au séminaire.
Là, donc, on traverse la cour, il est écrit « Et eux racontèrent ce qui s'était passé ».
Oui.
Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Ah ben ça, il s'est passé quelque chose pour chacun, et pour chacun, c'est différent. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à l'entrée, il y a marqué « Venez et voyez ».
C'est ça.
Un peu, on va dire, la devise du sanctuaire, puisque Odile a été guérie de la cécité par son baptême. « Et eux racontèrent ce qui s'est passé », c'est une phrase qui se trouve à la fin de l'évangile des pèlerins d'Emmaüs qui ont vu Jésus ressuscité et qui retournent à Jérusalem pour dire, pour raconter ce qui s'était passé.
On voit des éoliennes au loin.
Oui, les éoliennes au loin sont des éoliennes de Forêt-Noire. Vous êtes en Allemagne déjà là-bas. Vous voyez très bien, le soleil se reflète dans le Rhin, donc on voit très bien la frontière. Vous êtes entre Vosges et Forêt-Noire. Voilà, vous avez les deux.
Juste derrière le clocher, c'est une sculpture d'Odile.
Une statue de Sainte-Odile qui bénit la plaine d'Alsace, dont on va fêter le 100e anniversaire dans quelques mois. Elle a été érigée en juillet 1924.
Très bien.
Ouais.
J'ai bien fait de passer.
C'était la bonne année.
D'accord. Et alors, le rond autour de sa tête symbolise son auréole.
L'auréole, oui, c'est la sainteté. Et vous voyez qu'elle a une crosse aussi en main. Elle était mère abbesse, donc responsable de sa communauté religieuse. Et les mères abbesses, comme les pères abbés, ont une crosse comme l'évêque. C'est la pastorale du berger, quoi, si vous voulez.
Et avec une petite figurine au cœur de cette crosse qui ressemble à un personnage.
Oui, c'est une croix avec deux pieds.
Ah oui, c'est ça.
Ouais.
Ça fait presque
un petit bonhomme.
Un petit bonhomme,
ouais.
Merci, monsieur le recteur, pour votre accueil. Et puis, bonne journée de repos, puisque le jeudi, c'est votre jour de repos.
J'essaye, en tout cas.
Et donc, on va aller rejoindre les adorateurs. Paul, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être adorateur ?
Ben, c'est des amis qui ont dit, écoute, il nous faudrait du monde, t'as pas envie de voir un peu ce que c'est ? Et puis finalement, ça m'a plu, puis voilà, ça fait pratiquement la 20e fois que je suis là, quoi.
Et qu'est-ce que ça vous apporte ?
Ça m'apporte un approfondissement de la foi. C'est pas toujours traduisible au langage humain, mais c'est là, quoi. Je peux pas dire autrement. Et tenez, quelque chose de tout bête. Quand vous êtes devant le Saint-Sacrement, bon, vous restez un certain temps, vous restez 10 minutes, c'est pas trop long. Mais attention, 2 heures la nuit, c'est nettement plus long. Hein.
Ouais.
Et alors, curieusement, en début de semaine, je trouvais que 2 heures, je sais pas moi, mettant de minuit à 2 heures du matin, ça faisait long. Et en fin de semaine, ça passe à une vitesse. Donc c'est qu'on est entré dans quelque chose qui n'est pas simplement, je crois, une question de, comment dirais-je, d'habitude, mais c'est quelque chose de plus profond, quoi, si je peux dire.
Oui. Et vous avez fait quoi de votre vie avant d'être à la retraite ?
Ah, j'étais enseignant, professeur de lettres classiques. Ici, vous avez donc la chapelle des anges, derrière nous la chapelle des larmes. Et à la chapelle des anges, elle a été réparée 2 fois, bientôt une 3e réparation. Alors, la réparation du bas. Vous constatez qu'il y a un blason qui était frappé sans doute au moment de la Révolution, comme souvent. Ouais. Mais en dessous, vous pouvez lire « Restituta in anno Domini Jesu Christi ». Ce qui veut dire en latin « restituta, restitué », restauré, quoi. « Dans l'année Domini du Seigneur Jésus-Christ ». Et puis on attend la date, quoi.
Ah oui.
Et puis on se dit « Elle est où ?» Elle n'est pas là. Ben, ils s'embêtent, ils l'oublient. Ben non, en fait, elle est là.
Elle est cachée.
Vous constatez qu'il y a des lettres qui sont plus grandes que les autres.
Ah oui, exact.
Et alors à ce moment-là, on prend le système latin, romain, où vous avez le C qui veut dire 100,
ouais.
Le V qui veut dire 5, le X qui veut dire 10, le L qui veut dire 50, le D qui veut dire 500, et puis on commence. Alors vous avez Domini. Domini M, ça fait 1000.
Ouais.
Le D, qui est plus grand que le O à côté,
ouais.
Ça fait 500. Vous ajoutez le C de Christi, là, qui est plus grand aussi, ça fait 1600. Ensuite, vous avez 2 V, donc 2 fois 5, 1610. Et ensuite, vous constatez qu'il y a des I qui sont également plus grands que les autres lettres. Pas tous. Le premier I de Christi, il est plus grand aussi, celui-là.
Oui, oui, oui. Là, il y en a 1, 2, 3, 4,
5
et 6.
6. Donc, ça nous fait 1616, sauf erreur. Voilà. D'accord. Vous avez la date.
Ah oui, c'est pas mal. Hein.
Et alors, quand, donc, on appelle ça, enfin, je vérifie, mais il me semble que c'est chronogramme que ça s'appelle, ce genre de choses.
Eh bien, merci Paul. Alors, je quitte le Mont Saint-Odile alors que le groupe célèbre les Laudes. Il faut savoir que tout ce groupe, là, ils étaient une vingtaine, ils viennent, là, pendant cette semaine, eux, ils viennent d'un village entre Mulhouse et Colmar, ici Nîmes. Et donc, il y a cette adoration permanente du Saint-Sacrement, où ils se relayent toutes les heures dans la journée, toutes les 2 heures la nuit. Vous êtes libre d'être assis, debout, à genoux. Et alors, Paul, il fait ça avec sa femme, Monique. On entend au loin les tronçonneuses. J'en profite pour saluer les lecteurs de Télérama qui nous ont rejoints. Ils ont eu la gentillesse de consacrer un article à ma transition entre la radio et les podcasts. Si vous voulez m'écrire, c'est pas compliqué, hervé.pochon@gmail.com ou sur Insta ou Twitter, hpochon. Ah non, on dit plus Twitter, on dit X, pardon. Et là, le vent souffle un peu, hein, cette nuit. Ouh là 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 là. Comme j'étais en hauteur, j'avais cette vue magnifique, je voyais toutes les Vosges devant moi, et ça soufflait là, ouh là 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 là, j'étais content d'être dans un bon lit. Alors Elisabeth nous a écrit, je dis nous, parce qu'elle a écrit surtout à Léonard, mais à la fin elle dit « Quel est mon rêve ?» Je trouve le mot très fort, je parlerai davantage de souhait. Je pense que mon histoire, ma construction familiale ne me laissait pas le loisir d'avoir un rêve, c'était une autre époque. Mon souhait le plus cher serait de retrouver mon fils Mathieu, de ressentir sa présence la nuit lors d'un rêve, et pourquoi pas qu'il me réveille pour une écriture automatique. Je vous souhaite un magnifique printemps. Eh bien, Elisabeth, je vous souhaite vraiment de vivre votre rêve. Gilles nous écrit, alors comme ça il reprend la route, alors comme ça il va venir en Bretagne. La chance qu'il a, une choucroute à Strasbourg, des mirabelles à Nancy, une andouillette à Troyes, les rillettes du Mans, la galette saucisse de Rennes. Et pour le Finistère, il y a le Kig à Fax. Surtout, dites-lui de descendre à Douarnenez et de vous rapporter un beau Kouign-Amann. Eh bien, Gilles, j'essaierai de ramener un Kouign-Amann à la famille, même si c'est quand même bien lourd en beurre. Donc, on verra. Et Gilles poursuit avec son rêve à lui, qui ressemble à celui de Léonard, puisqu'il dit « Oui, moi aussi, j'aimerais bien être un animal, un chat. Quand je regarde vivre les miennes, deux fifilles, je les envie au plus haut point. La liberté les guide, le présent et leurs conditions. Grimper aux arbres, courir les champs, rentrer et trouver sa gamelle pleine, dormir, quoi de plus exaltant ? Soyez un chat, Gilles. » Agnès, nous avons fait le chemin de Compostelle entre Speyère et l'abbaye de Baumgarten, après Bernardville. Si tu passes par là, vas-y, c'est un chouette coin. Nous avions fait ce tronçon de Saint-Jacques pendant le Covid et c'était un peu spécial. En t'écoutant, je revis ces moments, une petite parenthèse dans une période assez particulière. Pour nous, le Mont Saint-Odile, c'était vraiment très particulier. Je me demande comment tu l'as ressenti. Nous étions montés dans le brouillard et la pluie, bien qu'en août, on était arrivés frigorifiés et l'accueil du monastère nous a fait oublier cette montée un peu rude. Mon rêve, c'est de reprendre le chemin à Baumgarten vers Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est à mon avis l'un des meilleurs moyens de se retrouver. On devrait tous faire cette démarche. Le monde n'en serait que meilleur. Bon chemin. Et j'espère que tu vas faire plein de belles rencontres. Eh bien, merci Agnès. Quant à mon Mont Saint-Odile, je l'ai très bien vécu. C'est une température pour la montée de 16-17 degrés. Idéal, un beau ciel bleu. Et là, aujourd'hui, la descente, eh bien, j'ai encore du ciel bleu. Hein. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que... Il a plu cette nuit, mais là, c'est bien dégagé. Il faut dire que ça a tellement soufflé que les nuages ont disparu. Et là, je suis au milieu d'une grande clairière, entourée d'épicéas. Alors, j'ai descendu le Mont Saint-Odile. Ben, comme il avait plu, c'était un peu glissant. Heureusement, j'étais raisonnable, j'avais rangé mon micro. Donc, quand je me suis étalé, eh bien, je n'ai pas abîmé mon magnéto. Mais vous n'avez pas le son en direct et le cri de « Ah !» Mais non, ça a été. Après, j'ai croisé personne. Hein. Je suis passé devant la maison forestière Willerhof. Là, j'ai aperçu une femme à la fenêtre qui secouait les draps. Bon, ben, je ne l'ai pas dérangé. Et puis là, je marche sur une petite route goudronnée au milieu des arbres. C'est magnifique. Et là, juste en face, il y a des militaires. Ah, ils vont me sortir le devoir de réserve. Là, il y a deux filles qui arrivent vers moi avec des cartes d'orientation. Oh, bonjour! Je peux vous poser une question? Qu'est-ce que vous faites en tenue militaire dans la forêt?
Une petite marche.
Et vous êtes des vrais militaires?
Oui.
Pourquoi vous regardez mon micro?
Je sais pas, vous nous enregistrez?
Ah oui, bah quand même, j'ai le micro là.
Ouais, non, désolé, monsieur.
Ouais, c'est le fameux devoir trop de réserve. Et alors, qui est votre chef? Peut-être votre chef, il peut me parler?
Non, désolé, je pense pas non plus.
Ah non, vous décidez pour votre chef, vous? Non, c'est vrai? Bonjour, vous êtes le chef?
Ah,
pas du tout. Bon, mince. Mais qui est le chef? Ah, j'en vois un qui a des galons là-bas, je vais aller le voir. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Est-ce que je peux parler à un chef?
Oui.
Ah,
c'est moi. Pourquoi?
Pourquoi?
Vous pouvez enlever, s'il vous plaît, le micro.
Oui.
Pourquoi?
Je vous explique. Je suis journaliste, je traverse la France à pied.
Oui.
Et je fais parler tous les gens que je croise.
D'accord.
J'ai juste une question. C'est-à-dire aucun secret,
oui,
aucun secret défense. Hein.
Malheureusement, pas nous, parce que nous, on doit repartir là tout de suite. Donc, vous pouvez vous diriger, voilà, ici peut-être, un peu plus haut.
De quoi?
Au niveau du camion.
Oui.
Mais normalement, nous, on doit y aller.
Bon.
Donc, voilà.
Mais ceux qui restent au camion, ils peuvent me parler?
Pas forcément. C'est le responsable, il est là.
Donc, monsieur, là?
Oui, c'est moi.
Ah, d'accord. Bon, alors. Mais,
c'est lui qui vous dit oui ou non.
Mais vous êtes combien de chefs? Parce que moi...
Ah, le grand chef, il est là. Et nous, il y a plusieurs autres chefs.
Bon, là, d'accord. Alors, bonne marche. Hein. Alors, bonjour, monsieur le chef.
Bonjour, oui.
Je m'appelle Hervé. Et je traverse la France à pied, je fais un podcast où je raconte le chemin et les gens que je croise. Et là, je tombe sur vous. Donc, est-ce que vous m'autorisez à vous poser deux questions?
Non, malheureusement, je ne peux
pas. Non, c'est pas vrai.
Non, parce que c'est une éventualité qui n'est pas prévue. Et voilà, comme on peut pas...
Ah oui,
après, tout dépend des questions, mais même, je veux dire, je ne souhaite pas. Je suis désolé, je comprends tout à fait votre démarche, mais j'en suis vraiment navré.
Mais vous ne trouvez pas ça un peu dommage de vous priver de... on est toujours là à faire des campagnes publicitaires pour donner une bonne image de l'armée, mais quand on croise l'armée, si l'armée se tait, c'est un peu frustrant et on ne partage pas grand-chose, ça ne donne pas envie, quoi.
Après, c'est une institution, hein. On a des représentants, des cellules de communication qui se chargent de ça.
Oui, oui, mais...
Vous avez posé vos questions?
Non, non, ce n'était pas mes questions. Ma question, c'était... Non, j'ai une question que je pose à tout le monde, normalement, c'est... Quel est votre rêve? Vous pouvez me le dire, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui vous êtes.
Bah, vous voyez bien notre rêve.
Ben non, non, justement.
C'est une belle démarche, c'est pour ça que j'ai consacré un peu de temps. Mais en revanche, je ne peux pas officialiser la chose. Vous voyez.
D'accord. Voilà. Mais juste, vous auriez pu...
Voilà, c'est pour ça que j'ai pris un peu le temps.
C'est gentil.
Je vous souhaite un bon cheminement.
Merci, monsieur. Bon, je n'ai pas réussi. Ah, je peux avoir une poire? Ah, c'est gentil. Bon, ben voilà, au moins je pourrais dire que l'armée m'a offert une poire. Merci. Visiblement, c'était un bataillon de militaires. Ils ont l'air de faire une marche. Et il y a une camionnette qui vient leur apporter un ravitaillement. Là, juste à côté d'une petite maison forestière. Mais d'ailleurs, j'avais des gens dans la maison forestière, je vais aller les faire parler. On ne saura pas quel est le rêve d'un chef militaire. Mais là, il y a des ouvriers qui travaillent. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Est-ce que je peux vous poser une question?
Ça dépend.
Ça dure une minute. Est-ce que je peux avoir votre prénom?
Salvatore.
Moi, c'est Hervé. Quel est votre rêve, Salvatore?
Mon rêve? Le problème, c'est que je les ai presque tous réalisés.
C'est vrai?
Oui.
Mais vous êtes jeune.
J'ai 60 ans. Hein.
Ah bon? Et d'ailleurs, là, vous êtes en train de faire de la maçonnerie. C'est quoi? C'est une maison forestière, ça?
C'est une cabane de chasse qui a brûlé et qu'on est en train de restaurer.
D'accord.
Ouais.
Et donc, là, c'est votre métier?
Oui.
Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas à la retraite encore?
Non, mais bientôt.
Et alors, vous n'avez pas un rêve que vous avez envie de réaliser à la retraite?
Si, de passer une bonne retraite.
Pas mal. Et alors, ça serait quoi, une bonne retraite?
Ben, de profiter un petit peu. Hein.
Mais alors, justement, vous m'avez dit, j'ai déjà réalisé tous mes rêves. Vous pouvez me donner un rêve que vous avez réalisé et qui vous a comblé?
Créer une famille.
Vous avez combien d'enfants?
Deux. 25 et 28 ans.
Et vous vivez où?
Ben, à quelques kilomètres d'ici, à Klingenthal.
Donc c'est dans le Bas-Rhin, hein.
Dans le Piémont des Vosges, là, oui.
Ah oui.
On sort de la maison, on est dans la forêt.
Parce que là...
C'est ça que je vous dis, c'est difficile, on vit une vie de rêve déjà. À part le fait de travailler et de s'emmerder avec ça, mais sinon on vit... Vous voulez quoi de plus?
Je suis d'accord, mais vous m'avez quand même dit, à part s'emmerder avec ça, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est pesant.
Ouais, après, s'emmerder avec ça, c'est pas le travail, hein. C'est le fait que... On a l'impression que le monde évolue dans le mauvais sens. Voilà, au lieu, tout pourrait être tellement simple et tout est tellement compliqué. En fait, voilà le rêve qu'il faudrait réaliser, que tout se simplifie et que tout soit moins compliqué.
Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous ?
Le plus compliqué pour moi, c'est gérer la connerie humaine. Vous savez, je suis chef d'entreprise et...
Ah oui.
D'accord. Voilà.
Et vous avez combien de salariés ?
Ben, on n'est pas beaucoup, on est à 4, mais...
Et quoi, parmi vos 4, il y a de la connerie humaine ?
Non, mais on le voit, je le vois, on avait déjà... Vous savez, ça fait 44 ans que je bosse, j'en ai vu. Hein. Donc, on a vu que l'évolution... On a l'impression que les gens s'impliquent moins dans leur travail et pensent plus, ce qui est légitime, hein, dans leur vie d'après-travail.
Et quand vous dites c'est légitime, c'est-à-dire que vous comprenez cette connerie, entre guillemets ?
Un peu, mais il faudrait que les gens... En fait, les valeurs ont changé, à mon goût. Hein, les valeurs ont changé. Dans le temps, il y avait la famille, le travail, et le reste passait après. Maintenant, on a l'impression que les loisirs et tout ça, c'est passé devant toutes ces vraies valeurs, en fait. Et le souci, c'est ça, et que notre monde d'aujourd'hui, il est calqué là-dessus. On le voit. Les gens, ils sont tout le temps avec leur téléphone à la main, ils se connaissent plus, ils ont que des amis sur leurs réseaux sociaux et c'est tout. Hein.
Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux ?
Pas du tout.
Ouais, ouais. Bon, ben, je vous retarde pas plus en tout cas et je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Mais est-ce que vous avez pu parler avec les militaires ou pas du tout ? Ils ont fait leur petite...
Juste une qui m'a demandé s'il y avait des toilettes, on lui a dit sur 360 degrés s'il y a des toilettes. C'est tout.
Pendant qu'on discutait, la camionnette est partie et le torrent coule, on entend les oiseaux, le ciel est toujours bleu. C'est vrai que la vie est belle.
En grande partie, ouais, grâce à ça. Mais la France, c'est pas que Paris.
Bah, la preuve, c'est pour ça que je marche.
Voilà. Bah oui, mais c'est bien, continuer.
Mais vous dites ça parce que vous avez habité Paris un jour ?
Pas du tout.
Mais vous trouvez qu'on parle tout le temps de Paris ?
Paris, on a l'impression que c'est le centre du monde. Quand on vit en France, alors que la France est tellement belle et tellement vaste. Voilà.
Après des paroles aussi positives, je vous laisse reprendre votre travail.
Merci. Moi, je vous laisse cheminer encore. À bientôt.
Merci beaucoup.
Bon courage.
Oh, ben ça va, quand je rencontre des gens comme vous, ça me fait passer la frustration de ne pas avoir pu parler avec les militaires.
Au revoir.
Au revoir. Et je repars avec ma poire. Qui est pas très mûr. Mais bon, ça me fait plaisir de manger une poire de l'armée. Et je laisse Salvatore terminer son chantier. Alors il me disait, moi quand j'ai fait mon service militaire, il n'y avait pas une camionnette qui nous apportait le ravitaillement. Hein. On avait tout dans le sac à dos. Là, ils ont des petits sacs, là. Ils ont l'air d'être en colonie. Je lui dis, bon, bah, c'est peut-être pas la peine de les dégoûter tout de suite, quoi. Si on leur donne dès le départ, ils avaient l'air d'avoir 18-19 ans. Le sac de 20 kilos dans le dos, il n'y en a plus qui voudront le faire. En tout cas, si vous aimez parler, n'allez pas dans l'armée. C'est le nouveau slogan. J'exagère quand je dis n'allez pas dans l'armée, parce que je repense, dans la diagonale du vide, j'avais croisé deux jeunes gendarmes qui m'avaient parlé de leur plaisir d'être dans la gendarmerie, d'aller au contact des gens, et vous aviez été... nombreux à m'écrire pour me dire « Ah, mais ça fait plaisir d'entendre des jeunes passionnés par ce qu'ils font. » Bah là, voilà, on ne saura pas si vraiment ces jeunes militaires sont passionnés, passionnants. Sur le long du chemin, j'ai souvent vu des bancs avec marqué « bancs installés par le club vosgien ». Ça me permet de parler des sentiers plaisir dont Anne-Catherine m'avait parlé l'autre jour. Et que je trouvais super parce que c'est très simple, quoi. C'est une date, un point de rendez-vous, et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire, c'est gratuit. Et puis là, vous avez un accompagnateur et une balade. Ça peut être autour du patrimoine, ça peut être autour de la végétation, de la faune. C'est annoncé au départ. Et donc voilà, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous tapez valleedelabruche.fr ou... rando-bruche.fr. Comme ça se passe entre juin et septembre, Le programme, il est communiqué à partir de la mi-mai. Je trouve que c'est vrai, une super initiative. Souvent, on voit passer des trucs. Oui, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Moi, je suis toujours à me dire, bon, je sais pas, est-ce que je serai là, est-ce que je serai pas là. On dit, ah tiens, j'ai envie d'aller marcher, il fait beau, allez hop. Et là, il y a une petite pancarte, pierre de la mémoire. Visiblement, il va y avoir peut-être une illustration qui a été enlevée. Et en dessous, il y a un petit texte. Toi qui marches sur le sentier, libre et sans crainte, entends le message des pierres. Mets-toi debout, deviens sentinelle. Œuvre à ce que plus jamais le murmure du vent dans les branches ne soit étouffé par la plainte des opprimés. Juin 2006. Je n'en sais pas plus. Et alors, vous savez, on se plaint des jeunes qui sont tout le temps sur leur téléphone. Bon, moi, je ne suis pas tout le temps sur mon téléphone, mais parfois, je devrais, parce que, comme mes cartes sont sur le téléphone, ça m'éviterait de me perdre. Mais en me perdant, j'ai eu la chance de faire peur à Hunley et ses marcassins qui sont partis, là, en cavalcade. Et puis, 5 minutes plus tard, rebelote une autre lait. Impressionnant. On m'avait toujours dit, bon, si tu vois des sangliers, il faut pas bouger. Bon, ben là, j'ai pas eu à me poser la question, parce que c'est eux qui sont partis en quatrième vitesse. C'était une super étape, dans les sous-bois, avec les tapis de mousse, le bois, cette odeur un peu humide, et de temps en temps, le soleil, là, qui me réchauffe. Là, nous venons d'enjamber la Rotaine. Aucun rapport avec le footballeur, ça s'écrit T-H-A-I-N-E à la fin. Et là, vous devez percevoir une différence. Parce que vous voyez, j'étais à Natzwiller, et maintenant je suis à Neuwiller-la-Roche. J'étais chez les catholiques, rattaché à l'évêché de Strasbourg. Et là, je suis chez les protestants. Eh bien, c'est ici, après une étape avec du dénivelé quand même. Parce que bon, j'ai commencé par descendre du Mont Saint-Odile, après je suis remonté, je suis passé à la Rotlar. Les chiens à bois. Donc pour ce soir, j'ai un hébergement. Pour demain aussi, à Bourbruche. Mais après, je sais pas, du côté de Baccara, là, je cherche. Il faut que je regarde un petit peu. N'hésitez pas à me faire des propositions. Si vous suivez sur la carte, moi, je vise l'ouest. C'est assez rigolo d'ailleurs, parce que le matin, j'ai le soleil dans le dos. À midi, j'ai le soleil sur le côté. Et là, il est un peu en face de moi. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que je ne bronze que du côté gauche. C'est ici que se termine cette troisième étape. Mais on se retrouve dès demain pour la quatrième étape. D'ici là, portez-vous bien, bonne balade à tous. Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.